En fait, nous avons déjà entendu beaucoup de choses précieuses, de sorte que nous en sommes submergés. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur de ce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, ni de ce que les hommes disent, mais nous tenons fermement, comme Paul le dit dans un passage, tenez fermement dans la parole du Seigneur pour ma gloire en ce jour. Et nous croyons que nous avons quelque chose sur laquelle nous pouvons nous accrocher. Il y a beaucoup de passages bibliques qui pourraient être lus, et mes yeux sont tombés sur Zacharie chapitre 8, et ici il est parlé de l'alliance de la paix et l'alliance de la vie. Mais j'aimerais lire à partir du verset 1. Zacharie chapitre 8, à partir du verset 1. De manière générale, cela est axé sur Israël de manière prophétique. Mais ici, il y a des paroles très précieuses. Il est dit ici, Zacharie 8, verset 1, « Ensuite, la parole du Seigneur des armées me fut adressée de manière suivante. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je suis rempli d'un grand zèle d'amour pour Sion et enflammé d'une violente colère à cause d'elle. La première partie du verset 2 concerne Israël, mais la deuxième partie est pour ses ennemis. Et nous savons que Dieu, d'une certaine manière, que l'on veuille le dire ou non, Dieu, d'une certaine manière, dans l'Ancien Testament, s'est choisi un peuple parmi tous les peuples. Au milieu de ce peuple, il s'est révélé. À ce peuple, il a fait connaître son alliance et ses promesses. Il s'est manifesté au milieu d'eux. Il a établi son sanctuaire parmi eux et les a bénis. Il les a bénis si bien qu'au jour de Salomon, on pouvait confesser que le monde entier est allé. Oh, que le monde entier qui avait entendu parler pouvait venir à Jérusalem, en Israël. Certainement pas pour voir Salomon, mais pour expérimenter Dieu, pour voir et entendre ce que Dieu a fait au milieu d'Israël. Voici la pensée, Zacharie 8, verset 2. « Je suis rempli d'un grand zèle d'amour pour Sion. » Ainsi a parlé le Seigneur, je retourne à Sion et je veux à nouveau habiter au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées et la montagne sainte. Lorsque lui, le Seigneur, revient, alors tout est à nouveau en ordre. Alors Jérusalem retrouve l'importance qu'elle avait à l'origine, lorsque le roi de Salem entrait et sortait, lorsque le roi de paix avait des hommes selon son cœur, la ville qu'il avait choisie pour y parler lui-même et s'y faire connaître. Il était le centre de tout ce qui se passait à Jérusalem. Lorsqu'il n'avait plus rien à dire, alors, l'importance de Jérusalem était aussi envolée. Si nous considérons l'Église, elle n'a d'importance que si le Seigneur est dans l'Église. Ce n'est que lorsqu'il parle dans l'Église, lorsqu'il peut agir, lorsqu'il peut se révéler, lorsque nous reconnaissons sa lumière, lumière dont nous avons entendu, selon Jean chapitre 8, 12, celui qui le suit ne restera pas dans les ténèbres. Qui étaient les personnes auxquelles il a dit, si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés, selon Jean 8, verset 24. Au fond, c'était des personnes qui auraient pu dire, comme le jeune homme riche de Luc 18, 28, au verset 18, « J'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse. Ils étaient des docteurs de la loi. Ils étaient sans péché, selon l'apparence extérieure. Ils ne pouvaient se comparer ni à un brigand, ni à un quelconque menteur, ni à un escroc, ni à un adultère, ni à aucun homme. Cela ne leur est pas du tout venu à l'esprit. Ils ne voulaient et ne pouvaient se comparer à aucune autre personne. Ils étaient au-dessus de tous. Mais une chose est montée dans mon cœur. Dieu ne cherche pas des personnes qui se placent au-dessus de sa parole, mais Dieu cherche des personnes qui se placent en dessous de sa parole. Alors, nous serons aidés. Les pharisiens se sont placés au-dessus de la parole du Seigneur. Mais pourtant, en dessous de la parole du Seigneur, sous la parole du Seigneur, là est la grâce. Et c'est là qu'il nous parle. Celui qui se place au-dessus de la parole, passera à côté de lui sans comprendre de quoi il s'agit. On pourrait avoir de la peine pour ces personnes, mais nous sommes maintenant dans notre époque. Et la question est de savoir qui passe à côté du Seigneur. Qu'est-ce que le péché? Tout commence par l'incrédulité, par le rejet intérieur contre Dieu et la parole de Dieu. Et tout le reste est entraîné. Amen. Et même le Seigneur leur a dit, parce que vous ne croyez pas ce que je le suis, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Il est question de la foi en Jésus-Christ. Il est question de la foi en sa parole. Il s'agit de reconnaître maintenant l'heure de notre visitation divine et de nous placer sous la parole de Dieu et non au-dessus. À ce moment-là, nous serons aidés et la grâce du Seigneur nous sera assurée. D'autres paroles précieuses sont écrites ici. Zacharie 8, verset 6. Si cela paraît impossible au reste de ce peuple en ce jour-là, cela doit-il forcément être impossible pour moi? Ainsi parle le Seigneur des armées. Le peuple avait du mal à croire que Dieu allait de nouveau habiter à Jérusalem, qu'il allait se révéler, se manifester à nouveau à Sion. Il regardait le peuple, ce qui était devant leurs yeux, et pensait en eux-mêmes. Oui, c'est une chose impossible. Et Dieu leur coupe la parole et dit, si cela vous paraît impossible, cela doit-il être impossible pour moi? Toutes choses ne sont-elles pas possibles devant Dieu, pour Dieu, selon Marc 10, verset 27? Si nous nous regardons nous-mêmes, alors nous pourrions dire, oui, qu'est-ce qu'un si petit groupe de personnes? Qu'est-ce qu'ils font dans ce monde de plusieurs milliards de personnes? Mais ce qui nous paraît impossible ne doit pas forcément être impossible à Dieu. Il prend un petit reste et se révèle à travers de lui, à travers ce petit reste, et peut le présenter au monde entier comme un témoignage vivant. Si cela vous paraît impossible, dit le Seigneur, cela doit-il être impossible pour moi? Oh, le Seigneur prononce seulement une parole et toutes choses sont différentes. Il parle et cela se produit. Il ordonne et la chose est là. Tu n'as pas plus besoin, tu n'as même plus besoin de l'attendre. Sa parole peut s'accomplir en un instant. Si seulement nous pouvions croire et accepter. Et il est dit ensuite, au verset 7 de Zacharie 8, « Ainsi a parlé le Seigneur des armées. Sachez que je délivrerai mon peuple du pays du soleil levant et des pays du soleil couchant. Des pays du soleil levant et des pays du soleil couchant. Et je les ramènerai à la maison pour qu'ils habitent de nouveau au milieu de Jérusalem. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. » Ce que Dieu fait pour Israël sur le plan terrestre et extérieur, il le fait aussi pour l'Église. De même manière que dans le monde entier, les Juifs sont retournés à Jérusalem et dans le pays de la promesse, de la même manière, Le dernier appel retentit dans le monde entier pour que l'Église épouse soit appelée à sortir et à être préparée. Car il n'y a pas de révélation divine à Jérusalem tant qu'elle n'a pas eu lieu dans et par l'Église. Et nous devons le comprendre. Le Seigneur conduit son peuple aussi dans ce temps et il veut nous laisser dire, il veut nous dire, ce qui vous paraît impossible ne doit pas forcément, amen, ne doit pas forcément être impossible pour moi. Dieu est très élevé et plein de puissance. Sa parole est une parole toute puissante. Il dit que le soleil soit et il était là. Il dit que les eaux se rassemblent en un lieu et cela s'est produit. Il dit que la mer se remplisse d'êtres vivants et cela s'est produit. Et il dit que le ciel soit survolé d'oiseaux et cela s'est produit. Ce qu'il dit, cela se produit. Amen. Et nous devons arriver à ce que la parole de Dieu accomplisse aussi au milieu de nous ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Peu importe qui la prononce, elle est et demeure la parole de Dieu. Et Paul dit, vous avez reçu la prédication, non pas comme la parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, telle qu'elle est véritablement, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Et si les hommes reçoivent une prédication comme la parole de Dieu, alors ils recevront ce que la parole de Dieu leur a promis. Mais s'ils pensent, ah, le frère veut encore parler de moi, où veut-il aller maintenant, où veut-il en venir maintenant, alors nous pouvons tout oublier. Mais si nous nous laissons connecter à Dieu sous la prédication et que nous ne suivons pas nos propres pensées, mais nous suivons les pensées de Dieu afin d'obtenir la connexion avec le Dieu vivant, alors il se révélera à nous comme il a promis dans sa parole. Et il est dit ici ensuite, avec le verset 11, Zacharie 8, verset 11, maintenant, je ne me comporterai plus envers le reste de ce peuple comme pendant les jours passés. Ainsi parle le Seigneur des armées. Mais, verset 12, il y aura une semaille de paix. Amen. Il semble que dans le passé, le Seigneur ne se soit pas tout à fait tourner vers son peuple comme il aurait dû le faire. Mais maintenant, il fait lui-même la promesse, verset 11. Maintenant, je ne me comporterai plus envers le reste de ce peuple comme pendant les jours passés. Non. Quand vient le jour, le temps de Dieu, temps dans lequel ses promesses s'accomplissent, alors Dieu ne peut plus se taire. Alors il entre en action, alors quelque chose se produit, non pas par les hommes, mais par l'Esprit de Dieu, sous la proclamation de sa précieuse et sainte parole. Verset 12, « Mais il y aura une semaille de paix. » Oh, gloire à Dieu, la paix sera semée. Vous savez, dans un temps où l'on attend que Dieu fasse quelque chose, dans un temps où on attend que Dieu fasse quelque chose, il y a parfois des troubles. L'un dit ceci, l'autre cela. L'un voit les choses d'une certaine manière, l'autre voit d'une autre manière. Un va et vient. Mais quand Dieu commence, alors le trouble prend fin, le trouble s'arrête. C'est nous qui faisons des va-et-vient. Dieu ne fait pas de va-et-vient. Dieu crée quelque chose de nouveau. Et cette idée est si merveilleuse. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Dieu n'a jamais fait quelque chose de vieux, d'ancien. Il a toujours et en tout temps fait quelque chose de nouveau. Et je crois que nous pouvons aussi compter sur le fait qu'il fasse quelque chose de nouveau en ces jours. Et alors, il y a une semaille de paix. Amen. Et cela va encore plus loin au verset 13. Il est dit, Zacharie 8, 13, et il arrivera que, comme autrefois, vous avez servi de malédiction aux nations, vous de la maison de Juda et vous de la maison d'Israël, ainsi je veux maintenant vous donner le salut pour que vous deveniez une bénédiction. Amen. Ne craignez pas, prenez courage. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et les mêmes promesses dans la parole prophétique s'appliquent à l'Église tout comme elles s'appliquent à Israël. Ne craignez pas, prenez courage, car Dieu tourne sa face vers nous et dirige son salut au milieu de son peuple comme un fleuve puissant et se glorifie par l'accomplissement de sa parole. J'espère que nous n'avons pas été prêchés à mort pendant toutes ces années. J'espère que nous avons été prêchés pour être vivants. Car il y a deux possibilités. L'une, c'est que les personnes soient prêchées à mort et que la parole n'a plus rien à leur dire. Mais l'autre possibilité est qu'ils sont transportés de la mort vers la vie. Amen. Et la question est de savoir, avons-nous été prêchés à mort ou avons-nous été prêchés pour la vie et pour devenir vivants? Amen. Que Dieu aide à ce qu'une nouvelle vie, la vie de Dieu, amen, la vie que Dieu opère, puisse se manifester. Ne craignez pas, prenez courage. Amen. Louange et remercié soit notre Dieu. Ce qui nous paraît impossible, doit-il être impossible pour le Seigneur? Loin de là, nous prenons courage. Nous pouvons même espérer là où il n'y a rien à espérer et croire là où il n'y a presque rien à croire parce que Dieu l'a dit et cela reste ainsi. Et alors, nous prenons courage, nous sommes consolés et nous ne craignons pas. Amen. Combien de fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le Seigneur, lorsqu'il s'est révélé aux hommes, a commencé par dire, combien de fois il a commencé par dire, ne craignez pas. C'est dans la nature de l'homme d'avoir peur de quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait, pourquoi? Nous n'avons la crainte que d'un seul. Nous ne craignons qu'un seul. C'est le Dieu vivant. Et le plein amour chasse toute crainte. Et là où il y a la crainte de Dieu, la crainte de l'homme doit disparaître. Là où le Seigneur se révèle et crie à nous, ne crains pas, prenez courage. Alors même les jeunes croyants peuvent être fortifiés dans la foi et aller de l'avant et placer leur confiance dans le Dieu vivant. Oui, en nous regardant, vous pouvez très vite être confondu. Et plus vite cela arrivera, mieux ce sera. Amen. Mais dans le Dieu vivant, dont la parole est fiable et certaine, personne ne sera confondu s'il place sa confiance en lui et s'il a reçu sa parole dans son cœur. Amen. Et j'espère que dans le passé, nous n'avons pas seulement nourri notre intellect avec telle ou telle connaissance de la parole, alléluia, mais que nos cœurs ont été atteints et que la parole du Seigneur est tombée dans nos cœurs et qu'elle est produit du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Ne craignez pas. Prenez courage. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Si le Seigneur le dit ainsi, alors cela doit être possible. Et quand il dit ce qui vous paraît possible ne doit pas forcément être ce qui vous paraît impossible ne doit pas forcément être impossible pour moi. Oh, alors c'est une parole sublime, une parole vraie, et nous pouvons nous y fier. Nous avons parlé aujourd'hui de la transformation de notre vie, de notre cœur, de notre âme, de toute notre existence. Et nous avons presque envie de dire, Seigneur, nous avons déjà essayé pendant tant d'années. Nous avons déjà voulu nous débarrasser de ceci et de cela. Nous avons déjà voulu faire de nous des personnes qui marchent dans tes voies. Et nous n'y sommes pas parvenus après toutes ces tentatives. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ce qui vous paraît impossible, oui, ne doit pas forcément être impossible pour moi. Loin de là, car voici, je fais toutes choses nouvelles. Et je retourne à Sion et j'y glorifie mon nom. Amen. Et c'est pourquoi il dit ici dans la parole de Dieu, sans doute dans le même livre de Zacharie, que le nom du Seigneur soit loué depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas écrit une seule fois dans la Bible, c'est écrit quelques fois. Amen. Maintenant, il est dit ici plus loin, et avec cela j'arrive à la conclusion. Zacharie 8, verset 14, deuxième partie. Ainsi parle le Seigneur des armées. Et je ne m'en suis point répenti. De même, j'ai changé d'avis et j'ai décidé du bien, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Amen. Il y avait un temps parmi Israël où Dieu avait décidé de leur cacher sa face parce qu'ils suivaient leur propre voie et que Dieu ne pouvait plus marcher avec eux. Mais pour le temps où ils sont revenus afin de marcher à nouveau dans les voies de Dieu, il leur a promis la bénédiction. Et nous le voyons ici dans sa parole. De même qu'il avait décidé le malheur dans le passé, de même, en ces jours, il a décidé de changer d'avis et de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Amen. Et ensuite, après ces paroles, il est écrit, il est dit, ne craignez pas. Amen. Ce que Dieu a décidé, il l'exécute. Le malheur, il le permet seulement, mais le salut, il le donne lui-même. Amen. Qu'il manque de bénédiction, il le permet seulement, mais la bénédiction, il la donne lui-même. Et si nous avons compris cela, que de la même manière qu'il devait se tourner vers le peuple d'Israël, pourvu que le peuple d'Israël tourne ses yeux vers le chemin de Dieu et puisse revenir, alors Dieu était lié à sa parole. Et il en va de même pour l'Église du Dieu vivant. Il a décidé de nous faire du bien. Et il dit, ne craignez pas. Amen. Il veut nous faire du bien et nous témoigner l'amour. C'est ce qui est écrit ici. Et il est dit ensuite, au verset 16 de Zacharie 8, voici les commandements que vous devez accomplir. Dites fidèlement la vérité, l'un aux autres, les uns aux autres, et exercez dans vos portes une justice pacifique. Amen. Pas seulement une justice, mais une justice qui vient d'en haut, accompagnée de la paix de Dieu, qui est supérieur à toute intelligence humaine. Amen. Oui, notre intelligence peut nous tromper, mais la paix de Dieu et l'Esprit de Dieu nous conduisent dans toute la vérité. Soyons sincères, soyons une fois sincères. Combien de fois avons-nous pensé que les choses étaient bien de telle ou de telle manière? Mais plus tard, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas bien du tout. Il n'y a qu'une seule personne qui peut connaître tous les détails. Amen. Et c'est le Seigneur. Alléluia. Et si nous pratiquons une justice pacifique dans nos portes, et il est écrit ici, verset 17, Zacharie 8, que personne ne médite dans son cœur le mal contre son prochain, et que personne n'aime des serments trompeurs, car je hais toutes ces choses, ainsi parle le Seigneur. Remarquez-vous, lorsque le peuple d'Israël est dans la volonté de Dieu, et que cette visitation divine vient sur eux, alors tout est établi, manifesté comme Dieu l'avait ordonné depuis Moïse, et alors rien ne manque plus. Il ne manque pas la justice, il ne manque pas la parole, il ne manque pas la bénédiction. Alors tout est au milieu de son peuple et la même chose s'applique à l'église du Nouveau Testament. Amen. Si nous sommes revenus au fondement original de la foi, amen, et à la parole de Dieu et à l'enseignement des apôtres, amen, alors que le Saint-Esprit rende justice dans l'église du Dieu vivant. Amen. Alors, ce n'est plus un homme qui s'approprie une prétention d'une fonction ou d'un service, mais c'est le Seigneur, le chef de l'église, Jésus-Christ, qui reviendra prendre les siens à la maison. Amen. Oh, que personne ne médite, il répète le verset 17 de Zacharie 8, que personne ne médite dans son cœur le mal contre son prochain et que personne n'aime des serments trompeurs, car je hais toutes ces choses. Ainsi parle le Seigneur. Puissions-nous comprendre la somme de toutes ces choses. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres. Selon Jean 8, verset 12. Il n'est pas écrit non plus qu'il faudra corriger, qu'il faudra faire ceci ou faire cela à cette personne. Celui qui suit véritablement le Seigneur, celui-là sera secouru. Amen. Il n'aura pas besoin d'être poussé, mais il saura ce qu'il doit à Dieu. Il ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et lorsque le Seigneur Jésus rendait témoignage de ce qu'il avait à dire ou de ce qu'il devait annoncer, alors les pharisiens étaient de nouveau là et disaient, tu parles de toi-même. Oh, n'avait-il pas le droit de parler de lui-même? Mais je veux vous dire ceci. Parfois, on a l'impression que Moïse a parlé de lui-même. Mais Moïse n'aurait rien eu à dire si Dieu ne lui avait pas parlé auparavant. Oh Seigneur, parfois on penserait qu'un Élie se trouvait sur le mont de Carmel et qu'il avait quelque chose à dire. Il n'aurait rien eu à dire si le Dieu vivant ne lui avait pas parlé auparavant. Et nous pouvons parler de ce dont nous voulons. Mais à moins que Dieu n'ait parlé, nous parlerons tous à côté de ce qu'il fait. Mais qu'il soit remercié, oui, de ce que dans ces jours, il a parlé de manière puissante. Alléluia. Et son discours est clairement compréhensible. Je vous ferai du bien. Ne craignez pas, je retourne à Sion et qu'il y ait de nouveau de la joie à Jérusalem. Oh, si nous pouvions le saisir et le comprendre, Dieu a des pensées d'amour, de paix. Il a des pensées de salut avec chacun de nous. Il veut que nous reconnaissions que ce qui peut pour nous être une situation si complexe, si inexplicable. Et il y a une expression terrestre que même les hommes qui sont sous la proclamation de la parole de Dieu peuvent utiliser. Il y a une expression terrestre qui dit « la charrette est enfoncée dans la boue » pour montrer comment la situation est compliquée. Mais moi, je ne me soucie pas de savoir si la charrette est enfoncée ou non. Pour moi, seule la parole de Dieu est valable. Amen. Ce qui vous paraît impossible serait-il impossible pour moi? Et plus notre situation est désespérée, alors d'autant plus grande sera la gloire de Dieu quand il nous aura aidés. Amen. Si nous avions pu nous aider nous-mêmes, nous aurions eu suffisamment de temps pour le faire. Mais maintenant, nous dépendons de l'aide de notre Dieu. Amen. Et je vous dis, il nous vient à secours. Loué soit son glorieux nom. Il ne peut pas seulement sortir la charrette de la boue. Il peut nous soulever de la poussière et pour nous faire asseoir à côté des nobles, comme son peuple, comme les rachetés, les libérés par le Seigneur. Amen. Il nous a ramenés pour révéler à nouveau son salut, pour nous révéler à nouveau son salut et nous faire bénéficier de son aide en ces jours. Amen. Puissions-nous recevoir cette parole dans la foi. Et je vous le demande, est-ce que cette prédication était une prédication morte, une prédication de mort, ou elle était une prédication vivante, une prédication de vie? Si c'était une prédication vivante, alors nous devons à Dieu une réponse vivante dans notre prière. Et que nous l'honorions dans la foi en disant, mon Dieu, même si tout semble impossible, nous savons que toutes choses sont possibles pour toi. Car auprès de notre Dieu, rien n'est impossible. Et il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Croyons-nous aujourd'hui que Dieu nous a aidés? Je suis reconnaissant pour ce week-end. Je suis reconnaissant pour chaque précieuse et sainte parole de Dieu. C'est une force. Amen. C'est une vigueur. C'est une assurance. Elle nous relève de la poussière. Elle nous a parlé. Elle a parlé à nos cœurs, à mon cœur et à nos cœurs à tous. Puisse notre réponse à Dieu ne pas manquer. Aujourd'hui, il veut entendre une réponse de notre part. Sera-t-elle dans la foi ou dans l'incrédulité? Que personne n'ose laisser la place à l'incrédulité après une prédication de la foi. Car seul celui qui croit verra la gloire de Dieu et expérimentera la victoire du Tout-Puissant. Mais si nous ne croyons pas, alors nous ne pouvons pas subsister. Mais si nous croyons, alors Dieu est de notre côté. Et si les ennemis le voient, lui, le Seigneur, alors, ils devront s'écarter. L'ennemi n'a pas peur de toi. Amen. Il n'a pas peur de moi ou d'une église que nous pouvons aussi décorer de manière biblique et que nous pouvons décorer de tous les côtés avec des citations bibliques. L'ennemi devra avoir du respect lorsque celui qui l'a vaincu à Golgotha sera au milieu de nous comme le vainqueur. Alors, il devra avoir du respect et la victoire de notre Dieu sera révélée. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Amen.